Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Après l'éviction, les questions. Si le départ annoncé de la directrice d'Engie, Isabelle Kocher, n'était plus une surprise, il réveille les incertitudes sur l'avenir du groupe et son rôle dans la transition énergétique.
Et oui, parce qu'Isabelle Kocher était et s'était étroitement associée à ce que le conseil d'administration appelle la transformation d'Engie, à savoir le désengagement des énergies fossiles et virage vers le renouvelable. C'est actuellement un quart de l'électricité produite par le groupe, mais aussi, deuxième axe de bataille plus implicite de ce groupe créé en 2008, de remonter ses performances boursières avec une cotation tombée au plus bas en 2017, un peu en reprise depuis, mais c'est vrai moins vite que le CAC 40. Il y a un an, le plan stratégique d'Isabelle Kocher devait répondre à ce double impératif, mais en même temps que les rumeurs de friction dans la gouvernance se sont multipliées celles sur le démantèlement, au point qu'on aurait pu croire qu'Isabelle Kocher était l'obstacle à supprimer pour y parvenir. Eh bien non, répond le spécialiste des énergies Jean-Marie Chevalier, il est professeur émérite à Paris Dauphine et membre du Cercle des économistes.
On peut discuter le fait d'avoir dégagé les activités gazières qui était un cash flow récurrent et sûr, mais en même temps, il fallait se dégager d'activités traditionnelles pour passer à cette idée de service et d'intelligence énergétique. Il faut relativiser les remarques du conseil d'administration. Moi, ce que je vois, c'est que la production d'électricité, c'est une activité qui devient complètement concurrentielle et on peut se procurer de l'électricité sans en produire forcément. À mon avis, là encore, il y a probablement des cessions à faire, mais globalement, Engie est dans beaucoup de métiers énergie ou proximité de l'énergie et ça me paraît un atout fondamental pour faire face aux défis de la transition énergétique. Par rapport à EDF, qui est très impliqué dans le nucléaire, et qui est moins présent dans toutes les autres activités. Engie est présent encore dans les activités traditionnelles, gaz ou nucléaire en Belgique, mais est plus avancé dans le domaine des services, du conseil énergétique. Je pense que le contrat signé entre Engie et une université américaine, où Engie prend en charge toute la gestion des flux énergétiques, c'est quelque chose qui est reproductible pour d'autres contrats avec des entreprises ou avec des collectivités locales. Et ça me paraît aller tout à fait dans le bon sens.
Donc pour que tout reste comme avant, il fallait que tout change, le démantèlement d'Engie n'aura pas lieu.
Oh, alors là, on ne sait pas. Il y a d'un côté les hypothèses sur l'opportunité pour l'État de se désengager. C'est vrai que sa participation est assez haute, 23,6%, notamment se désengager de certaines infrastructures gazières et poursuivre le recentrage sur la partie commerciale. De l'autre, eh bien, ce sont les démentis farouches ces derniers jours de Bruno Le Maire et Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration. Mais même si cela arrivait, la grosse inconnue serait sociale, ce que n'avait pas soulevé Isabelle Kocher, en tout cas pour la transition énergétique, selon une étude PwC aujourd'hui, Engie se situerait à la moitié des performances de décarbonation des 24 grands groupes européens du secteur.
On passe aux brèves, des brèves en chiffres aujourd'hui. On commence avec ces 3% promis par Frédéric Vidal pour rassurer le monde de la recherche.
3% du PIB consacré à la recherche et développement, assure la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans une tribune à ses collègues, dit-elle, dans Le Monde. Manière de répondre aux inquiétudes et mouvements de démission et protestation dans le secteur de la recherche et plus largement universitaire. Secteur inquiet de la future loi de programmation pluriannuelle et de certaines mesures comme la disparition des maîtres de conférences, ces fameux maîtres de conf, fausse nouvelle comme les autres, dément en tout cas la ministre.
Et ce n'est pas 3% mais 0,3% cette fois, c'est le rythme de la croissance française ce premier trimestre, un léger rebond.
Oui, alors que le dernier trimestre avait déçu en révélant un repli de 0,1%, la Banque de France compte bien effacer cette mauvaise surprise, comme le dit son directeur François Villeroy de Gallo aujourd'hui en dévoilant ses prévisions. Si la baisse de la fin 2019 est attribuée aux grèves dans les transports, et bien les bons indices du chômage et le climat des affaires laissent entrevoir ce même rythme de 0,3% jusqu'à la fin de l'année.
Et pour finir, 43 milliards supplémentaires, c'est ce que la Banque Centrale Chinoise vient d'injecter pour soutenir l'économie face au coronavirus.
43 milliards de dollars prêtés aux banques nationales et grandes banques locales dans 10 provinces afin de favoriser justement leurs prêts aux entreprises en période d'incertitude, avec une première injection donc de 173 milliards de dollars la semaine dernière. Ces 216 milliards de dollars au total sont sans doute une des interventions bancaires directes les plus massives sur une économie en temps de paix.
Merci Xavier et à demain.